Et je faisais des crises d'hyperventilation, j'arrivais pas à reprendre mon souffle, des fois je voyais plus rien, j'arrivais juste pas à bouger en fait. Bah, quand je suis allée voir mon médecin, d'abord on a fait des analyses, etc. Et ensuite elle m'a dit non mais là c'est pas possible, il faut que tu te fasses aider. Elle s'est dit que sûrement que je somatisais plutôt ce qui se passait dans ma tête du coup.
Vous écoutez Toi aussi, une série podcast sur la santé mentale proposée par Radar RP. Aussi longtemps qu'elle s'en souvienne, Valentine a connu des périodes difficiles sur le plan de sa santé mentale. Alors qu'elle commençait à aller mieux, c'est les années de gymnase et tout le stress qu'elles impliquent qui ont replongé Valentine dans un profond mal-être. Cette fois, même son corps est à bout, elle est épuisée et fait de nombreuses attaques de panique. Valentine nous raconte son déclic et ce qui lui a permis d'aller vers le rétablissement. Aujourd'hui, elle a 18 ans et dit mieux se connaître que jamais. Valentine se sent prête à réagir si un jour sa santé mentale se dégrade à nouveau. Attention, ce témoignage fait mention de pensées suicidaires et d'automutilation. Des ressources d'aide en santé mentale se trouvent en fin d'épisode. Ce podcast a été produit avec le soutien de la ville de Nyon. Bonne écoute.
Ma santé mentale, aussi loin que je puisse me souvenir, ça a toujours été assez compliqué. Je sais qu'il y a eu des périodes déjà quand j'étais enfant où ça n'allait pas du tout, mais je garde des souvenirs très flous. Mais je sais que déjà autour de mes 9 ans, il y a eu des périodes où j'étais vraiment très mal. Je pense que la première fois où il y a eu vraiment un souci et je m'en suis rendu compte quand même que là, c'était absolument pas normal, c'était pendant mon année de 10e. Ça commençait à déjà pas trop aller pendant que j'étais en 9e. Il y avait des périodes où je me sentais vraiment pas bien et tout. Et puis en 10e, au début de l'année, il y a un événement qui est survenu dans ma vie, qui a vraiment eu un énorme impact sur moi. Et à ce moment-là, je me suis sentie vraiment sombrée. J'ai ressenti juste un énorme mal-être, c'est-à-dire que je supportais pas juste d'être là. Enfin, pour moi, juste le fait d'exister, d'être présente dans ma tête, dans mon corps, etc., c'était juste insupportable. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse à répétition. Donc, je n'arrivais pas à suivre les cours, etc. J'avais toujours été une super bonne élève, mais à cette période-là, j'étais obligée de sortir de la classe tout le temps, en fait. Je ne pouvais pas rester assise pendant 45 minutes d'affilée, c'était impossible. J'avais toujours besoin d'être en mouvement, de faire des choses, ou à l'inverse, tout d'un coup, je me figeais et puis je pouvais rester assise à un endroit sans bouger, sans... Enfin, juste, je me sentais totalement vide, en fait. C'était très perturbant pour moi. Je pense que c'était très... inquiétant aussi, parce que je comprenais pas trop ce qui se passait. Surtout, ça a duré très longtemps. Et puis, le fait de pas du tout avoir de contrôle sur ce qui se passait dans ma tête, etc., ça me faisait peur. Et ça m'a aussi poussée à beaucoup, beaucoup m'éloigner des autres, parce que j'avais l'impression de pouvoir leur faire du mal comme je m'en faisais à moi, finalement. Donc, ça m'a vraiment poussée à me replier sur moi et à m'isoler beaucoup. J'avais l'impression d'être en décalage avec tout le monde autour de moi, finalement. L'impression qu'il n'y a personne qui pouvait comprendre ce que je vivais, parce que moi-même, ça me dépassait un peu. Et j'ai commencé à me faire du mal assez rapidement. J'avais déjà, par le passé, eu des périodes où j'utilisais mes ongles, par exemple, pour juste ressentir quelque chose. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à me scarifier et ça a duré pendant très longtemps, avec des périodes d'interruption aussi, pendant des fois des mois, j'arrêtais, mais à chaque fois, je recommençais. Mais du coup, pendant cette année-là, en tout cas, ça a été très régulier. Je pense que c'est la période où je me suis le plus fait de mal. Après, ça a commencé à s'améliorer quand même, vers la fin de la 10e, je pense. Et en 11e, j'ai changé de classe, et du coup, ça m'a fait aussi un nouveau départ. J'étais avec d'autres personnes, j'avais un très bon groupe de potes, on sortait énormément, on s'amusait, on faisait plein de choses, en fait. Sauf que, avec le recul, en fait, je réalise que même à cette période-là, il y avait des moments où ça n'allait pas du tout. Quand je pense plus en détail, je réalise qu'en fait, il y avait plein de moments où je me sentais toujours hyper mal, qu'il y avait encore des moments où je me faisais du mal, que... En fait, je continuais à faire quand même des crises d'angoisse à certaines périodes, etc. Que j'avais quand même ce sentiment d'être un peu à part, on va dire, dans le sens où j'avais l'impression que ma vie n'était pas du tout la même que celle des gens qui m'entouraient. En 10e, j'ai parlé beaucoup à mes amis proches. Et là, c'était très compliqué parce que j'avais pas vraiment de filtre. Je pense parce que j'étais tellement mal, en fait, que j'arrivais pas à essayer de ménager un peu les autres. Donc mes amis elles ont eu du mal aussi à supporter ça parce qu'elles me voyaient pas bien, mais elles savaient pas comment m'aider. Enfin, je leur disais, quand j'avais des idées noires, etc., je leur disais à des moments que j'avais juste plus envie d'être là, en fait. Au fil du temps, en 11e justement, là j'en parlais moins. J'essayais de profiter vraiment de chaque instant que je passais avec mes amis, de profiter des bons moments et de me focaliser là-dessus. Mais je me suis un peu forcée à vivre à 100% pour essayer de pas vivre trop dans ma tête. Parce que je savais que dès que ça s'arrêtait, il y avait des moments où j'étais de nouveau super mal. Et en fait, j'essayais d'être le moins possible toute seule. Je sortais énormément et je vivais vraiment à 200 à l'heure. Et puis en fait, il y a juste un moment où physiquement, ça a commencé à plus aller non plus. J'ai commencé à avoir des migraines extrêmement fortes pendant des fois des semaines entières. J'avais des douleurs au dos qui étaient aussi très très fortes. J'avais des vertiges et des nausées à longueur de journée. Alors ça m'empêchait vraiment de vivre. Et en fait, pendant cette période, le soir, quand je rentrais chez moi après avoir passé une longue journée avec des amis, je m'effondrais sur le sol de la salle de bain et j'étais plus capable de me relever pendant une heure et demie, des fois deux heures, et je restais juste couchée là. Et je faisais des crises d'hyperventilation, j'arrivais pas à reprendre mon souffle, des fois je voyais plus rien, j'arrivais juste pas à bouger en fait. Bah, quand je suis allée voir mon médecin, d'abord on a fait des analyses, etc. Et ensuite elle m'a dit non mais là c'est pas possible, il faut que tu te fasses aider. Elle s'est dit que sûrement que je somatisais plutôt ce qui se passait dans ma tête du coup. Et à ce moment-là, donc, j'ai décidé de commencer un suivi psy. J'en avais déjà eu par le passé, mais j'avais arrêté. Et peu à peu, ça s'est quand même amélioré pendant les vacances d'été, etc. Sauf qu'il y a eu ma rentrée au gymnase en première année. Là, ça a été une période extrêmement difficile. J'ai été très vite sous pression avec les cours, alors que l'école, ça a toujours été un pilier dans ma vie. Ça a toujours été quelque chose d'extrêmement stable. J'avais toujours des bonnes notes, peu importe ce qui se passait dans ma vie personnelle. Je suis toujours restée une bonne élève. Sauf qu'au fil du temps, je me suis épuisée. Et c'est seulement vers le milieu de l'année, je pense au semestre, j'ai réalisé qu'en fait, ça faisait des mois que ça allait pas. À ce moment-là, j'ai sombré de nouveau. J'ai recommencé à faire des crises d'angoisse extrêmement violentes. J'ai recommencé à me scarifier alors que ça faisait 7 mois que j'avais arrêté. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu vraiment un déclic. Parce que je savais que pour me pousser à recommencer à me faire du mal, il fallait que j'aille vraiment pas bien du tout. Je pense que ça a aussi été un élément déclencheur dans ma réflexion. Je me suis dit, mais en fait, je suis en train de me laisser sombrer. Et si ça continue comme ça, je finirai jamais mes études, en fait.
À ce moment-là, il y avait qui autour de toi qui pouvait t'aider ?
Alors, j'avais des amis quand même proches qui étaient là. J'avais mon psy qui a été très présent aussi à ce moment-là. Contrairement à d'autres suivis où ils essayaient vraiment de parler un peu plus de ma vie, de mon enfance, etc. Là, il a vraiment essayé de trouver une approche assez pragmatique où il pouvait juste m'aider genre sur le court terme et voir comment on mettait les choses en place pour que juste j'arrive à sortir la tête de l'eau, le temps de reprendre mon souffle un petit moment parce qu'il voyait que sinon, ça allait vraiment pas le faire en fait. Et surtout, au mois de février de ma première, j'ai rencontré un groupe de 3 filles qui étaient aussi en première année de gymnase et qui traversaient aussi une période assez compliquée. Et en fait, finalement, on s'est vraiment rencontrés au bon moment et on a réussi à se soutenir à fond. On a créé un lien vraiment hyper fort. On était beaucoup là les unes pour les autres. C'était très fort et puis je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé d'avoir ces personnes-là dans mon entourage à ce moment-là.
Alors comment ce groupe d'amis-là, particulièrement, elles ont pu t'aider ?
Alors, je pense que c'était rassurant de voir que j'étais pas la seule à faire face à ce type de difficultés. Et puis de voir aussi que du coup, elles avaient les épaules, d'une certaine manière aussi, pour porter un peu ce que je vivais. Parce que pour moi, certaines personnes qui n'ont pas forcément vécu la même chose, c'est des fois plus compliqué pour elles, il y a des choses qui leur font peur. Et des fois, c'est légitime. Et pour moi, le fait d'avoir des gens en face qui vivent un peu les mêmes choses, on arrivait mieux à se rendre compte des moments où il fallait vraiment s'inquiéter et des moments où on avait juste besoin d'avoir quelqu'un qui soit là, en fait. Et puis surtout, au début, j'avais vraiment peur que ça devienne trop lourd pour tout le monde. Et finalement, on a vraiment réussi à réguler un peu toute notre façon de partager les choses, etc., de manière à ce que ça reste quelque chose de sain et de positif pour tout le monde et pas que ça commence à être une charge trop lourde pour certaines. On avait tout suffisamment de retenue aussi pour pouvoir être là, mais sans avoir l'impression de devoir sauver les autres. Et une autre chose que j'ai faite à ce moment-là, c'est que je suis allée voir ma prof de classe et je lui ai expliqué la situation. Disons que je lui ai dit que pour moi, c'était plus possible, en fait, que j'arrivais plus à venir en cours régulièrement, etc. Et que bah, les absences commençaient à s'accumuler. Et elle m'a conseillé d'aller voir le doyen. Et puis, en accord avec mon psychothérapeute, on a mis en place un allègement scolaire pour me permettre, d'avoir un peu moins de cours sur la semaine. J'ai quand même eu des absences en plus de ça, mais ça m'a, je pense, beaucoup soulagée parce que ça m'a permis de finir plus tôt mes journées, d'avoir des journées moins chargées et puis d'avoir aussi moins d'absences comptabilisées. Donc ça m'a aussi permis de déstresser un peu au niveau de tout le côté administratif, des absences, etc. Et c'est un allègement qui s'est poursuivi encore en deuxième année. Je pense que ça a vraiment été un soulagement énorme pour moi. C'est très important d'extérioriser parce que ça me permet de prendre mieux conscience de la situation dans la mesure où tant que j'extériorise pas, il y a tout qui se passe dans ma tête, mais du coup c'est un mélange entre des pensées rationnelles et des pensées beaucoup plus irrationnelles dans le sens où oui je vais mal et du coup je vais avoir des schémas de pensée beaucoup plus négatifs. Et du coup le fait de pouvoir le partager, ça m'aide à faire le tri entre ce qui est effectivement assez factuel, etc. et ce qui est juste des schémas de pensée négatifs. À cette période, j'ai repris l'écriture aussi. En dixième, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit. Parce que justement, je me rendais compte que mes amis, elles avaient de la peine à tenir à porter tout ce fardeau sur leurs épaules. Et à cette période-là, j'ai recommencé à écrire, même si au départ, ça a été très compliqué parce qu'il y a tout qui était trop mélangé dans ma tête. L'écriture, pour moi, ça a vraiment été une libération, dans le sens où les moments où j'étais vraiment pas bien, c'était juste une manière de tout poser là, en sachant que personne lirait et que du coup, j'avais pas besoin de réfléchir si ça avait la bonne forme ou pas. Et c'était aussi une façon pour moi de me rassurer dans le sens où j'ai toujours eu peur d'oublier. J'ai pas envie de reproduire les mêmes schémas que j'ai pu produire avant. Enfin, j'ai envie d'évoluer quand même et puis d'apprendre de mes erreurs passées et puis aussi de me souvenir de comment c'était, enfin, certaines périodes, etc., pour voir aussi le chemin que j'ai parcouru. Et l'écriture, ça a été un moyen d'ancrer justement ce souvenir-là quelque part. Et au-delà de ça, j'ai commencé à aller me balader, surtout avant les cours, parce que je me disais que j'avais besoin d'autres moments que le gymnase. Et le fait d'arriver directement au gymnase le matin, ça me déprimait. Et du coup, j'ai commencé à aller me promener tous les matins avant les cours pour juste prendre l'air, profiter d'être dehors, de l'air frais, etc. Donc ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. C'est aussi une période où j'écoutais énormément de musique. Je pense que la musique, beaucoup de gens peuvent dire ça, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a sauvée.
Et aujourd'hui, comment est-ce que ça va?
Aujourd'hui, je peux pas prétendre que tout va bien. En revanche, ça n'a rien à voir avec les périodes que j'ai pu vivre par le passé. J'ai une connaissance de moi-même qui est très très bonne. Ça a été vraiment quelque chose d'essentiel dans mon parcours, je pense. Parce qu'à l'heure actuelle, du coup, j'ai tendance à relativiser beaucoup de choses aussi. Parce que je comprends ce qui est très important ou ce qui est juste un ressenti de ma part, mais enfin, voilà, qui est temporaire et puis il faut pas non plus trop en tenir compte. Et surtout, j'arrive à fonctionner malgré tout ce qui peut se passer. Il peut y avoir des périodes où je vais pas bien, mais c'est pas pour autant que je mets toute ma vie sur pause. J'arrive à garder une vie sociale, j'arrive à garder des bons liens avec les gens qui m'entourent, j'arrive à continuer à aller en cours, à avoir des notes plutôt bonnes pour la plupart, et de manière générale à juste vivre ma vie, quoi.
Pendant ton travail avec ton psychothérapeute, quel mot est-ce que vous avez pu mettre sur ce que tu as vécu?
Il a laissé entendre qu'il avait une piste de diagnostic, même si du coup, officiellement parlant, il n'est pas en mesure de fournir un diagnostic. Et il m'a parlé du trouble borderline. Moi, il me l'a expliqué sous la forme d'une métaphore. Et il m'a parlé d'une falaise avec un chemin assez éloigné de la crête de la falaise sur lequel tout le monde marche. Et puis ce chemin représente la vie, en fait. Et il m'a dit, les gens qui ont un trouble de la personnalité borderline, c'est comme s'ils marchaient en permanence sur la crête de la falaise. Et au moindre coup de vent, ils risquent de basculer dans le vide. Et ce vide, il représente beaucoup de choses, parce que finalement, c'est l'humeur, aussi les relations aux autres, c'est ce côté de l'impulsivité aussi très caractéristique chez les personnes qui ont ce trouble borderline. Et c'est vrai que c'est une image qui m'a beaucoup parlé, aussi parce que j'y ai rajouté ma petite touche personnelle, et je lui ai dit c'est en étant sur la crête de la falaise qu'on a la meilleure vue. Et pour moi, c'est ça qui caractérise ma vie finalement, parce que j'ai du mal à accepter de m'éloigner de la crête de la falaise parce que j'ai envie de continuer à profiter de la vue. Et ce trouble, il m'a surtout appris énormément de choses. Et d'ailleurs, je parle pas forcément de trouble, mais je dis plutôt que j'ai une personnalité borderline plutôt qu'un trouble borderline. Parce que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la personne que je suis. Et au début, le fait de recevoir cette information de la part de mon psy, ça a été un choc, ça a été difficile à encaisser. Surtout que j'en avais pas beaucoup entendu parler. Contrairement à d'autres troubles sur lesquels j'étais assez bien renseignée, mais ça, j'avais déjà entendu le mot, mais je savais pas exactement ce que ça impliquait. Et en lisant certaines choses sur internet aussi, ça m'a fait assez peur. Mais finalement, c'est ma petite sœur qui m'a dit un jour, quand je lui ai parlé de ça, elle m'a dit, mais en fait, c'est juste un mot pour désigner tous les traits que t'as déjà. C'est pas que ça va t'apporter des symptômes en plus, c'est déjà des choses que t'as et ça te permet juste de poser un mot dessus. Et en fait, je suis tellement d'accord avec cette vision des choses, parce que finalement, pendant des années, je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. Et je pense que ça a aussi été quelque chose de très important, enfin ça a joué un rôle majeur aussi dans mon mal-être. Le fait de me sentir en décalage et différente, et il y a des moments où j'avais carrément l'impression d'être folle. Et en fait, le fait de pouvoir poser un mot, je me suis dit « Ah bah en fait non, je suis pas folle ». Et oui, peut-être que je suis un peu différente, mais c'est pas la fin du monde. Et je suis pas la seule dans ce cas, en fait.
Et avec ce trouble de la personnalité borderline, comment est-ce que ça se passe au niveau de l'humeur, des émotions ?
Au niveau de l'humeur, justement, les épisodes que j'ai pu vivre en 10e ou en première du gymnase, c'est des épisodes dépressifs qui sont du coup un des symptômes majeurs de ce trouble. Il y a des périodes où, au contraire, on peut être beaucoup plus joyeux, beaucoup plus enthousiaste, etc. Après, au niveau des relations, c'est aussi compliqué à gérer parce que on a tendance à avoir des relations très, très intenses avec les gens. Moi, j'ai tendance à me rapprocher très rapidement des gens, à m'attacher aussi très facilement. Mais à l'inverse, du jour au lendemain, ça peut basculer. Et je suis capable de couper les ponts sans me poser de questions avec des gens, sans avoir forcément de raison légitime de le faire. Et une fois que c'est fait, je reviens jamais sur mes décisions. Et c'est quelque chose aussi assez difficile à gérer au quotidien, surtout pour mes proches.
Et qu'est-ce que tu lui dirais à la personne que tu étais à 15-16 ans ?
Je lui dirais qu'elle n'est pas responsable du malheur et du bonheur des autres, et qu'il faut qu'elle apprenne à se mettre en priorité, parce que contrairement à ce qu'elle croit, elle a de la valeur, et que sa vie a de l'importance, tout autant que celle des gens qu'elle essaie d'aider, et pour qu'elle essaie d'être là au quotidien, qu'elle mérite de vivre sa vie pour elle, et pas juste pour les gens qui l'entourent. Je lui dirais que c'est une personne qui est très très forte, et qu'elle s'en rend pas toujours compte, mais qu'elle a en elle toutes les ressources dont elle a besoin pour s'en sortir, et pour continuer à se battre. Et je dirais qu'il lui reste tellement, tellement de gens à rencontrer et qu'elle est entourée, enfin qu'elle sera entourée de personnes extraordinaires par la suite et qu'elle a intérêt à s'accrocher jusque-là parce que ça en vaut vraiment la peine.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si toi ou quelqu'un de proche ne va pas bien, tu peux appeler le 147 ou écrire sur ciao.ch et ontécoute.ch pour demander de l'aide. Surtout, ne reste pas seul et parle-en. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien de la ville de Nyon. Pour d'autres ressources sur la santé mentale ou pour écouter les autres épisodes du podcast, rends-toi sur toiaussi.ch ou suis-nous sur Instagram @toiaussipodcast. Merci à Valentine pour son témoignage et merci à Stop Suicide pour leur suivi sur cet épisode. Toi aussi est une série lancée par Radar RP et réalisé par Mai Biederman.